L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. L'amour, c'est sans doute le sentiment que l'on recherche le plus, toutes et tous. C'est sans doute le sentiment qui a fait couler le plus d'encre et sans doute un peu trop de sang. Et aujourd'hui, avec mon invité, Angelo Follet, on va parler justement d'amour, mais aussi de peur, puisqu'elle a écrit un livre qui s'appelle « Les 21 peurs qui empêchent d'aimer ». On va évidemment pas parcourir les 21 peurs, mais comme on se connaît particulièrement bien tous les deux, on va vraiment parler de ce sujet de manière intime. Et j'espère que ça vous parlera à vous aussi. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Salut Angelo, comment tu vas ?
Salut Greg, super bien, merci, je suis content de te voir.
Bah pareil. On va parler d'amour, mais aussi de peur. Comment ça se fait que... Ou peut-être pas comment ça se fait, parce que la réponse est relativement simple, mais comment les deux sentiments sont intriqués, c'est-à-dire l'amour et la peur, alors que l'amour, ça devrait être exaltant, beaucoup plus que faire peur.
Je crois que tu as répondu à la question. J'ai l'impression que c'est l'idée qu'on s'en fait, en fait, de l'amour qui fait que ça peut générer des peurs. Tu vois, quand on se dit que là, si l'amour doit être exaltant, qu'est-ce qui se passe quand il ne l'est pas ? Et en fait, je crois que c'est ça, le point de bascule entre peur et amour, c'est finalement souvent la peur de vivre quelque chose, une relation, une histoire, un sentiment qui ne correspondent pas à ce à quoi on s'attend, à notre imaginaire, à la culture, aux valeurs familiales, au modèle relationnel qu'on a eu par le passé, au modèle culturel dans les films, dans les histoires, dans les chansons, dans les livres, tu vois. Je crois que c'est surtout parce qu'on a une certaine définition de l'amour que derrière, il peut y avoir de la peur derrière. Et puis après, évidemment, dans la relation, parce que je crois que l'amour et la relation, c'est pas la même chose. Dans la relation, bien sûr, il y a de la peur dans le sens où, encore une fois, ça, tout va se jouer au niveau de ce qu'on a réussi à vivre et qu'on voudrait garder ou qu'on voudrait avoir sur un certain temps de manière stable sans que ça s'arrête ou sans que ça change. Et donc, pas le perdre, tu vois. Il y a aussi toute la question de la qui est très complexe finalement dans la relation, c'est comment je rencontre l'autre, comment on se rencontre, quoi. Et donc, toute cette question de la différence fait que à chaque fois qu'on va buter sur l'autre, c'est-à-dire que finalement, buter sur l'autre, ça veut dire ben, on se confronte à tout ce qui n'est pas moi. et donc, à chaque fois que je réalise que l'autre n'est pas moi, bah là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une déception, il y a une frustration, il y a une peur, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir... Il se passe plein de choses comme ça qui fait que finalement, à chaque fois que je suis confronté à la différence et à non-moi, au non-moi, soit je peux apprendre quelque chose de ça, soit au contraire, je vais plonger dans des émotions désagréables, quoi, voire souffrantes.
Et alors, du coup, tu disais la relation et l'amour, c'est pas la même chose. C'est quoi la différence ? Parce qu'en fait, quand on est en relation, on est censé être dans un amour encore plus profond, non ?
J'ai envie de reprendre une expression de Lacan. Lacan, donc c'est un éminent un psychanalyste français.
Bien sûr.
Français, je sais plus s'il est français d'ailleurs.
Ça, je sais pas.
Et moi, je suis pas très fan de son approche et je suis pas très sensible à son approche, mais il a une phrase qui est assez marquante qui disait que dans la psychothérapie ou en tout cas dans la psychanalyse, La guérison arrivait de surcroît. Et donc, ça veut dire que, en fait, c'est presque optionnel, quoi. C'est presque du bonus si à un moment donné, la personne va mieux. Ça, c'est un peu, c'était sa vision de la cure, quoi. Tu vois, de la cure thérapeutique, la cure analytique. Et en fait, j'ai envie de dire, quelque part, je sais pas, je suis avec ça aujourd'hui, en tout cas, c'est que finalement, dans une relation, l'amour arrive de surcroît. C'est-à-dire que si on arrive à le vivre, si on arrive à se le témoigner, si on arrive à se le partager, à l'expérimenter et à ce qui nous traverse, j'ai envie de dire tant mieux. Mais j'ai l'impression que ça arrive d'autant plus facilement quand on lâche l'idée et l'attente de comment ça doit arriver ou de quelle forme ça doit prendre, en fait. Mmh. Et dans ce sens-là, en fait. Ça parle un peu de la question de ta première question, c'est-à-dire que moi, ma proposition aujourd'hui, ce serait de lâcher du lest à l'amour et de lui laisser prendre la forme, de se laisser surprendre par la forme qu'il prend en fait dans une relation, tu vois ? Parce que je pense qu'on peut le ressentir dans beaucoup de relations qui sont pas forcément des relations amoureuses, qui sont pas forcément des relations fortes. Qui sont pas forcément des relations. Je crois que c'est des moments, en fait, tu vois. Et en fait, je dirais, de ma petite expérience de ça, que ce qui m'a le fait le plus avancer ou cheminer, en tout cas, en relation et dans l'idée de vivre de l'amour, c'est que je me suis toujours... je sais pas comment dire, toujours fait surprendre par la gueule qu'il a. Et tu vois, et de me laisser surprendre par le truc de putain, mais c'est bizarre, normalement ça m'aurait saoulé, ou ça m'aurait saoulé à tel point que je serais parti, ou à tel point que je me serais posé la question. Et en fait, ça me saoule vraiment, mais c'est pas grave.
Ouais.
C'est un peu ce truc là, tu vois, ça me saoule, et alors est-ce que ça veut dire que je l'aime plus?
En fait, ouais, ce que tu dis, c'est. L'amour, c'est aimer les défauts de l'autre, quoi, quelque part.
ou comme je disais avec la peur tout à l'heure, c'est un peu faire avec, ou je pense pas qu'il faut se forcer, hein, c'est pas mon propos. Mais par contre, je pense que tu peux ressentir vraiment de l'amour dans les moments où tu sens que l'autre, il a beau être pas du tout comme tu l'attends, extrêmement différent, voire à l'opposé de toi. Que tu comprends, mais juste pas pourquoi il fait ça comme ça, alors que toi tu fais ça comme ça. Et je parle de tâches quotidiennes comme de trucs plus importants. Et ben, il y a quand même un truc qui est là, quoi. En fait, ça. Tu sais, c'est plus le truc d'accepter de pas comprendre, de pas forcément avoir accès à tout. Et surtout, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de pas être pareil, quoi. Moi, finalement, je vois qu'en fait, quand l'autre me saoule, c'est quand je vois qu'il n'est pas comme moi. Hein. Que ce soit mon amoureuse ou quelqu'un d'autre, en
bien
fait.
Bien sûr. Tu vois, voir, là, ça peut être encore pire quand la personne, elle est comme elle est et elle te montre tes zones d'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas détester ses zones d'ombre. Enfin, tu vas détester sa manière d'être parce qu'en fait, ça va être une sorte de miroir de tes zones d'ombre.
Ah, je suis complètement d'accord. Le pire, c'est ça. Le pire, quand c'est le plus désagréable, c'est quand l'autre te montre un truc que tu n'aimes pas chez l'autre, mais que tu considère que c'est pas chez toi et que... Enfin bref, ça fait un effet de miroir comme ça qui est assez déformant et qui finalement est... Si on veut bien, c'est Serge Cicéron qui parle de ça, il parle beaucoup d'empathie et donc dans les différents niveaux d'intensité d'empathie et de qualité d'empathie, le dernier niveau le plus évolué ou en tout cas le plus développé, c'est quand je suis capable d'accepter que l'autre peut m'apprendre quelque chose de moi que je ne sais pas. Et j'adore cette notion d'empathie parce qu'on se dit, enfin l'empathie, on a toujours l'impression que c'est comprendre les émotions de l'autre et être sympa avec et bienveillant, mais en fait c'est pas que ça. Et en fait, je crois que il y a un peu de la il y a un peu d'amour aussi dans ce qu'il raconte Serge Tisseron dans cette espèce de niveau d'empathie parce que quand on est capable d'être avec des amis, de la famille, une amoureuse ou un amoureux. Auprès de qui on accepte qu'ils nous apprennent quelque chose de nous, que nous-mêmes on est en déni, ou que nous-mêmes on refuse de voir chez nous, ou que nous-mêmes on déteste chez l'autre, alors là, la relation, j'ai l'impression qu'elle est riche, quoi, à ce moment-là. mais c'est pas facile. Hein. Je dis, c'est comme d'habitude, c'est simple, mais c'est pas facile, quoi.
Non. Tu pourrais me parler d'amour-passion versus d'un amour qui serait posé. Est-ce que souvent, en fait, l'amour qu'on nous vend dans les films, dans les contes, dans les livres, parfois dans la musique, c'est souvent des amours-passions. Et sans doute que, quelque part, de manière consciente ou inconsciente, c'est un amour qu'on poursuit, c'est-à-dire qu'on a envie de cet état passionnel. Un amour passionnel, c'est nécessairement des névroses qui se parlent, et donc un amour où tu essayes de compléter quelque chose qui manque chez toi? Est-ce que, du coup, quand tu as deux personnes qui sont pleines et entières dans le sens qui ont travaillé sur leur névrose et qui sont bien avec elles-mêmes, elles ne sont pas plus dans un amour posé? En fait, c'est une vraie question que je me pose. En fait, je n'ai pas la réponse, oui. Mais du coup, ça m'intéresse d'avoir ta réponse.
Je crois que c'est la question à $1 million. Et moi, pour moi, là, ce que tu es en train de soulever, c'est vraiment le cœur de... je pense des questions relationnelles et surtout des relations amoureuses. Il y a plein de gens qui parlent très très bien de ça, dont Esther évidemment, mais Esther Perel, pardon. Mais là où je veux en venir, c'est que dans l'amour passion, je me sens vivant. Dans l'amour posé, je me sens en sécurité. Donc on est vraiment sur cette espèce de paradigme et sur ce paradoxe où la question est comment on fait pour se sentir vivant et en sécurité. Est-ce que c'est possible de l'être en même temps, puisque finalement la notion de se sentir vivant, c'est aussi la notion d'aventure, c'est la notion de risque, c'est la notion d'inconnu, etc., de dépasser des peurs, d'être dans le courage ou d'être se dépasser soi-même ou se dépasser avec l'autre. Dans quelle mesure ça, c'est pas finalement antinomique par rapport à la notion de sécurité, c'est-à-dire avoir un revenu stable, avoir un lieu de vie stable, avoir de quoi effectivement faire ce qu'on a envie de faire et de pas être dans le rouge tous les mois. Et puis la sécurité aussi par rapport à la relation de confiance entre les deux partenaires. Si c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, ou alors avec qui j'ai des valeurs communes ou des projets communs, etc. Donc en fait là où ça frotte, c'est ça, c'est vraiment passion, se sentir vivant et sécurité, relation posée, se sentir en sécurité, parce que c'est pour ça que souvent dans les relations de couple qui commencent un peu à s'installer, où les deux partenaires s'engagent, etc., et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de peur de l'engagement, c'est que souvent, en fait, on peut noter un déclin de la passion. On peut donner un déclin du désir, on peut noter un déclin de la surprise, tu vois. Et en fait, tout le défi, je crois, d'une relation, c'est qu'on puisse vivre tout ça dans cette même relation. C'est-à-dire que moi, à une époque, par exemple, et je connais plein de gens comme ça, j'avais l'impression d'alterner entre des relations de passion et des relations où on était un peu posé. Mais il n'y avait jamais les deux, en fait, tu vois.
Ouais.
Et je crois que le défi d'un couple aujourd'hui, et d'autant plus aujourd'hui où tu as pléthore de choix, tu as des applis de rencontre, tu as beaucoup plus de semblants de liberté, d'accès, le défi, je crois que c'est de tenter l'aventure de vivre ces deux facettes-là avec la même personne, tu vois, et de voir que quand finalement je suis avec cette personne, je peux être celui qui rassure, celui qui est en sécurité, celui qui est capable de m'engager, faire des projets sur le long terme, etc., et aussi celui qui sait surprendre, qui peut être créatif, qui peut avoir un élan pour un projet comme ça spontané, etc., etc. Donc je crois que c'est plutôt l'exploration de nous-mêmes qui va se faire à travers ce couple-là à deux têtes entre la passion et la sécurité, et en fait c'est ça. Je crois qu'on l'aventure du couple, c'est d'aller explorer ces parts de là en nous, tu vois, avec l'autre. et de voir comment, ouais, comment ça se, quelle est la chimie dans tout ça, parce que tu vois, c'est sûr que si on est deux à être tout le temps dans la sécurité, ou le vouloir être posé, etc., ben il y a un moment donné où ça va être à un des deux de peut-être, tu vois, d'initier quelque chose. Et inversement, ça peut pas être tout le temps la course à l'aventure et au risque et au danger. Et à la passion, parce que là, on s'épuise aussi. Donc,
bien sûr.
Et on ne peut pas forcément construire dans ces moments-là.
Mais du coup, c'est un des conseils, entre guillemets, si tant est que ça en soit un, c'est de, dans ton couple, ramener de l'imprévu, essayer de surprendre l'autre.
Ouais.
Et ce n'est pas simple, ouais. En fait. Finalement, quand l'autre, entre guillemets, avec des gros guillemets, est acquis, tu as moins tendance à vouloir le surprendre quelque part.
Oui, mais c'est valable. Moi, j'ai l'impression que c'est valable dans les deux sens. T'as moins tendance à vouloir le surprendre, mais tu perds aussi l'envie d'être surpris.
Ouais.
Donc, en plus de ça, tu imagines, toi, tu surprends pas l'autre. Toi, t'as moins envie d'être surpris. Donc, l'autre se sent qu'il est pas très surpris. Et en même temps, il sent que toi, t'as pas envie d'être très surpris parce que t'es dans ton truc pépère. Et en fait, on s'embourbe dans quelque chose qui, effectivement, peut s'endormir, quoi. Et donc, en fait, cette question de libido, cette question de, d'élan, de désir, etc., c'est aussi des moments, je pense, de crise qui sont importants pour se recentrer sur, ah bah tiens, mais en fait, tiens, ça fait longtemps que je me suis pas demandé ce qui me faisait vraiment lever le matin, qu'est-ce qui m'excite, en fait, tu vois, vraiment. Et je te dis ça parce que moi, je suis dans cette phase-là où, tu vois, je change de vie, etc., machin, et c'est un moment où j'ai plus d'espace pour me dire, mais bon, est-ce que ce que j'ai fait jusque-là, est-ce que je l'ai... C'est bon, je crois que je l'ai fait, quoi. Tu vois, vers quoi j'ai envie d'aller, quoi. Tu vois, quelle nouvelle aventure, et puis ça va être une aventure avec tout ce qui a été mis en place avant, évidemment. Mais...
Bien sûr. Je faisais référence tout à l'heure au couple... de névrose qui se parle. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'on peut être une personne qui, ayant travaillé, accepté ses parts d'ombre, ou en tout cas travaillé dessus d'une manière ou d'une autre, peut être une personne, tu vois, qui est bien toute seule et qui, du coup, l'autre arrive en ajout et pas... Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais souvent, en fait, ce que je vois, c'est... Et moi, j'ai été là-dedans mille fois, hein. Enfin, mille fois, pas mille fois, évidemment, mais...
Quand même,
hein. de nombreuses fois, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas chercher chez l'autre un truc qui te remplit, parce qu'en fait, il y a un trou... Et du coup, j'ai la sensation que c'est pas la relation la plus saine quand tu vas remplir, quand tu vas essayer de combler quelque chose qui manque en toi, que ce soit de la confiance, pour des raisons XY, que ce soit, peu importe ce que c'est en réalité, de la folie ou quoi, de la créativité. Tandis que j'ai l'impression qu'une structure ou une base qui serait plus solide, ça serait deux personnes qui sont bien. Pleine et entière, et qui du coup se rencontrent pour créer une sorte de truc. En fait, l'autre arrive en plus et pas uniquement tu vois, qui vient remplir un vide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas.
Ouais, je te suis. Je me suis souvent posé la question. Je dirais les deux. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais que. J'ai l'impression que, en fait, ça commence toujours par ça. Ça commence toujours par les névroses qui s'aimantent, qui s'attirent. Quand on parle de névrose, en fait, c'est vraiment pas forcément ça peut être pathologique, mais je veux dire, là, on parle de notre façon personnelle de nous adapter au réel et à la vie de tous les jours et à nous confronter à la vie et à ses aléas. Et donc, les névroses, en fait, c'est nos façons de nous adapter à tout ça. Et des fois, c'est plutôt malin. Et des fois, au contraire, quand ça se répète, ça peut être souffrant. Mais du coup, moi, j'ai l'impression que... pour l'instant, on ne sait que se rencontrer par la névrose. C'est-à-dire qu'on va... la rencontre en tant que telle, elle va nous amener à ce que ces névroses-là, une en particulier ou deux en particulier, en fonction tu vois, de ce qui se joue pour toi, va émerger. Et je crois qu'en fait, l'aventure du couple, c'est aussi ça, c'est-à-dire comment on dépasse ce stade. Mais j'ai l'impression que si on voudrait ne pas se rencontrer à partir de nos névroses, en tout cas une névrose uniquement, il faudrait être totalement vulnérable et authentique dès le début, ce qui me paraît... ce serait bien, hein, mais... mais tu vois, je crois que ça nous rattrape de toute façon. Et donc, en fait, c'est plutôt d'apprendre à le devenir avec l'autre, à montrer un peu des facettes qu'on n'a pas trop envie de montrer, ou dont on a un peu honte, ou dont on a un peu peur. Mais aussi, je parlais de l'empathie tout à l'heure au niveau, au niveau 5, c'est que, tu vois, quand il y a des névroses qui se rencontrent, au final... tu peux le voir, mais tu peux ne pas le voir aussi, quoi. C'est-à-dire que tu peux rester bloqué dans tes schémas de pensée, dans tes mécanismes habituels, et te dire, ça fait trois fois que je tombe sur le même genre de nana, par exemple.
Ou de mec.
Ou de mec, peu importe. Et du coup, là, bah, il y a quelque chose de la prise de conscience qui... que tu fais pas forcément ou qui se fait pas, tu vois. Parce que en général, hein, les schémas répétitifs, c'est vraiment que il y a cette double, il y a vraiment un truc paradoxal avec la façon dont on choisit nos expériences de vie, nos relations, etc. À partir de la névrose, c'est que en fait, il va y avoir la reproduction de quelque chose de traumatique ou la reproduction d'une expérience qui a été douloureuse, qui a laissé une empreinte. Et donc, pourquoi on reproduit ça? Parce qu'en fait, on a à la fois l'espoir qu'avec cette personne-là, ça se passe différemment, et en même temps, la crainte que ça se passe, comme d'habitude.
Bien sûr.
Et en fait, si tu veux... je prends un exemple. Tu tombes tout le temps sur des femmes très, on va dire, très indépendantes, très carriéristes, etc., etc., et qui ne laissent pas beaucoup de place aux relations amoureuses. Et donc, ça fait plusieurs fois que tu tombes sur des nanas comme ça qui finalement sont pas, tu te sens pas hyper disponible pour ça. Toi, tu fais des efforts, t'essaies de te caler sur leur emploi du temps, machin, mais ça marche pas. Et ça marche pas, et ça marche pas, et ça marche pas. Et si tu veux, du coup, qu'est-ce qui se répète? C'est qu'en fait, il va se répéter à la fois l'espoir qu'avec cette nana-là, qui est très indépendante et très carriériste et pas très disponible, avec moi, elle va le devenir disponible. Et en même temps, la crainte que ça se répète comme les autres, avec les autres. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que je pense que la rencontre, elle se fait quand même beaucoup à partir de ce qui... ce que l'autre, comment l'autre nous affecte et qu'est-ce qui fait ressortir de nous comme, tu vois, comme angoisse existentielle, comme peur, comme trauma ou névrose. Mais si ça, on arrive à deux à le mettre à jour et à s'en parler, à se dire, ah bah tiens, t'as vu, c'est marrant qu'en fait, finalement, quand toi tu fais ça, moi ça me fait ça, et en fait, ce que ça me fait, bah, je le connais depuis que je suis tout petit ou depuis que j'ai 15 ans ou depuis que, tu vois. Bah là, du coup, il y a un terrain où on peut un peu plus se rencontrer, mais ça me paraît difficile d'arriver à discuter de cette manière-là dès les premières secondes. Déjà parce qu'il peut y avoir de l'attirance sexuelle et puis que du coup, ben, forcément, notre attention, elle est posée ailleurs. donc voilà. Donc, dans ce sens-là, pour moi, c'est les deux, en fait. Hein. C'est grand, se rencontrer à travers, effectivement, nos blessures et peut-être essayer de se soigner ensemble, quoi.
Est-ce que tu penses que pour être aimé, il faut d'abord s'aimer soi?
Pour être aimé?
Ouais. Est-ce que pour être aimé d'une personne...
Est-ce que pour être aimé... Oh non, mais parce qu'il y a des gens qui me posent la question, est-ce que pour aimer, il faut d'abord s'aimer soi? Mais là,
ah, oui,
si alors, demandes...
ah oui, je pensais dans l'autre sens. C'est intéressant aussi, effectivement.
Donc c'est quoi ta question à toi alors?
Moi c'était pour être aimé, mais...
Pour être aimé.
Mais effectivement, pour aimer l'autre, c'est intéressant aussi.
je fais la nuance parce que j'ai l'impression que ce ne seraient pas les mêmes réponses. Mais est-ce que pour être aimé, il faut d'abord s'aimer soi? Je crois que c'est l'inverse. Je crois qu'il faut avoir un tout petit peu été aimé pour avoir une base sécure, pour avoir une base de confiance, pour avoir une base d'estime, pour avoir une base de sensation d'exister dans le regard de l'autre, pour avoir la sensation de son propre corps et de son propre ses propres sensations physiologiques, pour avoir une base de prise de risque, je peux aller vers l'autre sans forcément me faire engloutir, etc., etc., tu vois. Pour pouvoir s'aimer un peu, pour pouvoir avoir un peu confiance en soi, pour pouvoir un peu accueillir certaines parts de nous. Après, encore une fois, j'aimerais bien que peut-être qu'on arrête aussi de peut-être trop se mettre la pression sur s'aimer, c'est-à-dire que bah il y a des trucs que j'aime pas chez moi, bah ok, voilà, peut-être qu'un jour je les aimerai, peut-être que ça va passer, peut-être qu'à un moment ce sera même plus un sujet. Peut-être que je les aime pas parce que en fait je vois que c'est l'autre qui les aime pas, donc vu que l'autre l'aime pas, bah moi je l'aime pas non plus. Tu vois, qu'on se lâche un peu la grappe là-dessus peut-être, et juste de sentir que en fait sans amour du tout, on le sait statistiquement et expérimentalement, un enfant meurt. Donc
bien sûr,
quand on est vivant, on peut imaginer d'office qu'il y a quelque chose qui nous a été donné qui peut ressembler à de l'amour, peut-être pas comme celui qu'on s'imagine, peut-être pas comme celui qu'on raconte dans les histoires, mais qui était là quand même, malgré de l'inceste, malgré des contextes familiaux très difficiles, malgré de la violence ou de la maltraitance, il y a quelque chose quelque part qui nous a donné de l'amour, ou quelqu'un qui nous a donné de l'amour. Et en fait, je crois que c'est à partir de cette ressource-là et à partir de ce soin qu'il y a eu à un moment donné, que le corps a mémorisé, que les cellules a mémorisé, qu'on peut un petit peu s'installer dedans et finalement, en fait, l'intégrer comme quelque chose qui fait partie de nous. C'est, en fait, vraiment, il y a quelque chose qui est très, très proche. On utilise beaucoup cette analogie en psycho. C'est vraiment l'analogie à l'alimentation, tu vois, par rapport à nos émotions et notre vie psychique. Et en fait, qu'est-ce que c'est, par exemple, que s'alimenter ? C'est prendre un objet ou un corps qui est un non-moi extérieur qu'on va ingérer, qu'on va mettre à l'intérieur, qu'on va mâcher, détruire et mastiquer avec les dents, etc., etc., qu'on va faire passer dans l'estomac. L'estomac va trier ce qui est bon et pas bon, ce qui va surtout aller à droite, à gauche, ce qui va servir à quoi et dans le corps. Et puis après, il va y avoir toute une partie où ça va être transformé, assimilé. Donc du coup, les aliments vont être assimilés, ça va se transformer en énergie dans le sang et dans les muscles, etc. Et puis après, tout ce qui est côlon et compagnie, ça va au gros intestin rejeter ce qui est mauvais. Et souvent, quand on regarde le cycle comme ça de la digestion, finalement, de l'alimentation, on peut aussi voir dans les expériences humaines et les relations à quel endroit ça s'est bloqué. Et si, par exemple, j'ai ingéré un tout petit peu d'amour qui m'a été donné et que je l'ai assimilé et que j'en ai fait un moi et non un non et pas un non moi, que j'ai transformé en moi, en partie de moi, et ben en fait ça fait partie de moi et du coup je peux m'appuyer dessus et je peux m'en servir de ressource pour m'aimer moi-même en fait quoi. Je crois que vraiment il y a ça part de l'extérieur à la base.
Et justement, moi j'ai la sensation, j'avais entendu ça, tu vas me dire ce que tu en penses, que l'amour que ta mère te donne, quel qu'il soit, dans ta construction, c'est l'amour, c'est la définition ultime de l'amour. Et du coup, quand c'est dysfonctionnel, parce que ça peut l'être, et ben par conséquent, en fait, les partenaires que tu vas rechercher, hommes ou femmes, vont répondre à ces fonctions dysfonctionnelles, c'est-à-dire en fait tu vas essayer de reproduire finalement quelque part, admettons que ta mère était violente, tu vas aller chercher d'une manière ou d'une autre une forme de violence dans tes relations. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Est-ce que ça te parle ? Est-ce que...
Oui, ça me parle. Je crois que la mère ce pouvoir immense de donner la vie, et en même temps ce poids immense de d'être au départ quand même un pilier dans la fabrication entre guillemets psychique, émotionnelle, corporelle et relationnelle de l'enfant, Enfin, du nourrisson plutôt. Je crois que ce qui se passe déjà dans le ventre est déjà extrêmement important. Boris Cyrulnik parle très souvent de ça, c'est-à-dire qu'en fait, pour s'occuper d'un enfant qui est à l'intérieur du ventre de la maman, il faut s'occuper de la maman. Et en fait, il disait, si vous voulez que votre enfant soit pas stressé, il faut que la mère soit pas stressée. En fait.